C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, je suis parti en Bretagne, à moins que je ne sois en Italie. Enfin bon, en vacances quoi. Mais je vous laisse en compagnie du duo d'huile d'olive et beurre salé, composé respectivement de Fabienne Morel, la bretonne, et l'italienne Deborah Di Giglio. Bonne écoute.
Il y avait une fois un seigneur qui vivait avec sa femme dans un beau château à la campagne. Ces deux-là venaient juste d'avoir une petite fille. Une petite fille qu'ils avaient appelée Tali. Cette petite, dès le jour de sa naissance, elle avait quelque chose de particulier. Son parfum. Elle sentait la fleur d'oranger. Tout content, le seigneur et sa femme organisent une fête pour célébrer l'événement. Ils y invitent tous les plus grands devins du pays. Le jour de la fête, à la fin du banquet, les devins se lèvent les uns après les autres pour prédire l'avenir de la petite fille. Tous lui prédisent un avenir de rêve. Elle épousera un prince, elle aura de nombreux enfants, elle sera riche,
oui,
intelligente.
Tous lui prédisent cette vie comme dans les contes, sauf un. Il y a un devin qui ne veut rien dire. Le seigneur insiste. Rien à faire. Le devin prend ses affaires et s'apprête à partir. Le seigneur le suit, l'attrape par le col de la chemise et lui dit « Tu parles ou tu ne sortiras pas vivant d'ici. »
Devant un choix pareil, le devin se décide à parler. « Tu perdras ta fille. le jour où une écharde de lin entrera dans son doigt.
Pour empêcher que Tali ne se pique, le Seigneur fait interdire le lin dans toute l'étendue de son domaine.
C'est dans le coton qu'il élève sa fille, loin de toute écharde. Le temps passe. Tali grandit. Elle devient chaque jour un peu plus belle et un peu plus gracieuse. Un jour, Tali est dans sa chambre, elle regarde par la fenêtre, et voilà qu'elle voit passer une vieille dehors. À cette vieille, tout en marchant, file une quenouille de lin.
Hey, la vieille! Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Elle sait bien qu'il n'y a pas le droit de filer le lin.
Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le matin, elle fait son jardin, elle pense à ceci, elle pense à cela, oh mamma mia. Mais elle peut pas s'en empêcher, la quenouille de lin qui se plaint, elle se met à filer. Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le midi, elle traite ses brebis. Alors le matin, elle fait son jardin. Elle pense à ceci, elle pense à cela. Oh mamma mia. Mais elle veut pas s'en empêcher. La quenouille de lin qui se plaint, elle se met à filer. Elle sait bien qu'il n'y a pas droit de filer le lin. Alors le soir, elle va au lavoir. Alors le midi, elle traite ses brebis. Alors le matin, elle fait son jardin. Elle pense à ceci, elle pense à cela. Oh mamma mia. Mais elle peut pas s'en empêcher. La quenouille de lin qui se plaint, elle se met à filer.
Tali est intriguée par cette vieille femme avec ses drôles d'outils. Un fuseau, une quenouille. Elle n'a jamais vu ça avant, elle. Elle ne sait même pas ce que c'est. Alors Tali ouvre la fenêtre et crie à la vieille de monter la voir dans sa chambre. La vieille monte l'escalier et elle arrive sur le pas de la porte de la chambre de Tali.
Bonjour, madame.
Bonjour, petite.
Je voulais savoir ce que vous faites là avec vos drôles d'outils.
Eh bien, je file le lin.
Hein?
Mais je file le lin. Oh, je sais bien qu'il n'y a pas le droit de filer le lin dans ce pays. Mais enfin, c'est comme ça. Hein? Moi, je ne peux pas m'en empêcher.
Bah, écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, filer le lin.
Ah non?
Non. Vous pouvez m'apprendre?
La vieille accepte. Elle met le fuseau dans une main de Tali, la quenouille dans l'autre main, et elle lui explique comment il faut faire pour filer le lin.
Mais dans la filasse, il y a une écharde.
Oh, c'est une toute petite écharde de rien du tout. Un bébé écharde qui n'a jamais fait de mal à personne.
Et l'écharde voit la main de Tali qui s'approche.
Une main blanche, fine, délicate.
Elle sent la chaleur de la main de Tali.
Envoûtante, captivante.
Alors l'écharde pénètre les premières couches de peau de la main de Tali. Tout doucement, elle s'y enfonce jusqu'à la chair.
Moelleuse et confortable.
Tellement confortable que l'écharde s'y installe et s'endort.
Tali s'immobilise, ferme les yeux et tombe par terre.
Morte.
Morte. La vieille se précipite auprès de Tali étendue sur le sol. Elle essaye de la réveiller. Elle lui tapote les joues, elle la secoue. Elle lui dit qu'il faut absolument qu'elle se réveille, sinon c'est elle qui va avoir des problèmes. Mais au bout d'un moment, la vieille comprend que Tali ne se réveillera pas. Alors, elle se relève, elle dévale l'escalier aussi vite que ses vieilles jambes lui permettent encore et s'enfuit loin du château.
Quelques minutes plus tard, le père de Tali rentre. « Tali, tu es là ?» Je viens juste de croiser une vieille femme qui courait comme une folle. Il monte au premier étage pour voir sa fille, mais devant la porte de la chambre, il s'immobilise. Il la retrouve allongée par terre. À côté d'elle, une quenouille et un fuseau. À cet instant, le Seigneur se rappelle des mots du devin à la naissance de sa fille. Tu perdras ta fille le jour où une écharde de lin entrera dans son doigt. Perdras ta fille le jour où une écharde de lin entrera dans son doigt.
Le père attend pleurer, attend verser de larmes, que rivières et ruisseaux se sont tous emplis d'eau, que rivières et ruisseaux se sont tous emplis d'eau. La mer a tant pleuré, a tant versé de larmes, que rivières et ruisseaux se sont tous emplis d'eau. Que rivières et ruisseaux se sont tous emplis d'eau.
Au bout des 3 jours et des 3 nuits, le Seigneur et sa femme trouvent que leur fille est tellement belle, son teint encore tellement frais, qu'ils n'ont pas le courage de l'enterrer. Le château sera son tombeau. Le Seigneur et sa femme prennent leurs affaires, renvoient tous les serviteurs et quittent le château. Ils ferment la porte avec un cadenas et abandonnent Dali à son sommeil.
C'est pas pour dire, en écoute live cette semaine, vous écoutez les conteuses Fabienne Morel, Déborah Di Giglio, raconter Histoire à perdre la tête, et c'est édité chez Oui Dire.
Et le temps a passé, beaucoup de temps. Les mauvaises herbes poussaient dans le jardin, il y avait maintenant une haute barrière de ronces et d'épines qui entourait le château de la Belle Endormie. Au-delà de cette barrière de ronces et d'épines, il y avait une forêt. Et ce matin-là, dans la forêt, un roi est à la chasse, avec son cheval et son faucon. Tout d'un coup, le faucon prend son envol. Le roi donne un petit coup de talon dans la panse de son cheval et se met à la poursuite de son oiseau. Il galope, il galope, il galope, il galope, il galope, et soudain, il s'arrête. Devant lui, une haute barrière de ronces et d'épines. Impossible de la franchir avec son cheval. Le roi met pied à terre, dégaine son épée pour se frayer un passage, mais voilà que les ronces et les épines s'écartent toutes seules. Alors le roi s'engage dans ce chemin qui s'ouvre là et il arrive devant le château de la Belle Endormie juste au moment où son faucon entre à l'intérieur par une fenêtre qui était restée ouverte au premier étage. Le roi court jusqu'à la porte du château pour aller récupérer son oiseau, mais là, il s'aperçoit qu'elle est fermée par un cadenas. Alors le roi escalade la façade du château. Il s'agrippe aux lierres qui poussent le long du mur. Il arrive au niveau de la fenêtre ouverte et là, il s'arrête. Un petit coup d'œil à l'intérieur. C'est une chambre plongée dans la pénombre. Au milieu de cette chambre, il y a un lit. Et dans ce lit, une jeune fille est endormie. Le roi enjambe le rebord de la fenêtre et il s'approche d'elle tout doucement.
Signorina ? Il l'appelle, mais rien. Elle ne répond pas. Le roi s'approche et se couche gentiment à lit. Elle ne réagit pas non plus. Il la regarde. Est belle, est bellissima. Le roi s'allonge dans le lit à côté de Tali. Et ce qui se passe entre le roi et Tali à ce moment-là, je vais vous le dire en italien. Il racchiude gli occhi. Sente questo profumo d'arancio che gli solletica le narici. È il suo profumo preferito. Il re dà un bacetto a Tali sulla guancia e poi le dà un bacetto sull'altra guancia, un bacetto sulla fronte, uno sul mento, uno sul naso, un bacetto di qua, un bacetto di là, un bacetto sopra, un bacetto sotto, un bacetto davanti, dietro. E il re si infiamma. E momento poetico. Come l'ape fa con il fiore, così fa il re col suo dardo d'amore. Le roi fait avec son dard d'amour ce que l'abeille fait avec la fleur. Tali n'a pas bougé. Le roi ouvre les yeux. La nuit dehors est en train de tomber. Il est temps pour lui de partir. Un dernier baiser volé. Le roi quitte le château et abandonne Tali à son sommeil. De retour dans son palais, il oublie cette aventure. Il enfuit dans les profondeurs de sa mémoire pendant un long moment. Mais pendant que le roi s'occupe de ses affaires dans son palais, dans le château de la belle endormie, le ventre de Tali s'arrondit de plus en plus. Et au bout de 9 mois... C'est un garçon. Ah, il est bruyant, hein? Bon, il faut pas hésiter à mettre le pouce dans sa bouche. Allez. Ah, c'est bien, ça marche. Il n'est pas seul. Il y a une fille aussi. Elle est belle comme la lune.
J'ai faim. J'ai faim aussi. Et tété? Tété un tétin? Et tété un tétin à Tali? Tété un tétin à Tali? Oh yes!
Attends, on va tâter jusqu'au tétin. Tétin de Tali. Attends, on va tâter jusqu'au tétin.
On va tâter.
Tâter les tétins. Tâter jusqu'au tâter les tétins de Tali. Attâtons. On va tâter jusqu'au tétin. Tétin de Tali. Attâtons. Tétons. Tétons. Tétons les tétins. Tétons. 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 Tétons les tétins. Les tétins. Tétons. Tétons. Tétons les tétins. Attâtons. On va tâter jusqu'au tétin.
Tétin de Tali.
Attâtons. On va tâter jusqu'au tétin.
Tétin de Tali.
Attâtons. On va tâter.
Attâtons.
Attâtons. Attâtons. On va tâter. On va tâter. 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 Tâter les tétins de Tali. Attâtons. On va tâter jusqu'au tétin. Tétin de Tali. Attâtons. On va tâter jusqu'au tétin. Tétin de Tali.
Tétin de Tali.
Tétin. Tétin. Tétin les tétins. On va tâter.
Tétin de Tali.
Tétin. Tétin. Tétin les tétins.
Tétin. Tétin de Tali.
On va
tâter.
Tétin les tétins. Téter les tétins de Tali. Attâtons. On va téter. Téter les tétins.
force de téter comme ça n'importe où, l'un des deux bébés, au lieu de téter un tétat de Thalie, tète un de ses doigts.
C'est lui avec les chardes de lin. Les chardes est aspirée.
Et en un clin d'œil,
elle se retrouve dans la bouche du bébé. Thalie s'était endormie jeune fille. Elle se réveille mère de deux enfants. Eh oui, Thalie découvre là, sur son ventre, deux petits bébés tout mignons, tout potelés. Alors elle prend le petit garçon et elle le met à téter.
« Toi, mon grand, je t'appellerai Soleil. »
Et puis elle prend la petite fille et elle lui offre l'autre sein.
« Et toi, ma toute mignonne, je t'appellerai Lune. » Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons, mes chéris d'amour. Mais je me pose juste une question. Je ne sais pas d'où vous venez. Ah oui, ça doit être la cigogne.
Quelque temps plus tard, le roi repart à la chasse. Sur son chemin, ce jour-là, les orangers sont en fleurs. Le parfum des orangers réveille sa mémoire. L'envie lui prend de retourner voir la belle endormie.
Il arrive au château et, surprise, il retrouve Thalie réveillée avec deux enfants. Ses enfants. Le roi et Thalie prennent le temps de se connaître. Ils sont bien ensemble.
Tellement bien que le roi a du mal à quitter Thalie. Il passe plusieurs jours avec elle et les deux enfants. Et au bout d'une semaine, il est obligé de repartir. Les jours qui suivent, il pense à eux sans arrêt. Il ne peut pas s'empêcher de prononcer à haute voix les doux noms de Lune, Soleil, Thalie.
Il vient les revoir souvent, à l'occasion de soi-disant parties de chasse qu'il organise. Il ordonne à son homme de confiance de s'occuper d'eux, de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Mais à chaque fois que le roi passe du temps avec Thalie, quelqu'un dans son palais l'attend. « Surprise ! Sua moglie, sa femme, le roi est marié. » Et la reine est jalouse.
Très jalouse! Tadam!
Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de Segreti di Famiglia, secret de famille. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une invitée très spéciale. Alors, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Madame la Puce!
Bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Oh non, mais c'est pas la peine d'applaudir, vous savez, si j'ai une petite puce toute simple, vous me faites grossir.
Oh, vous êtes modeste, madame la puce. Moi, je sais que vous avez été à l'origine du dévoilement d'un secret très succulent.
Oh, vous savez ça, vous?
Ah oui, de quoi s'agit-il?
Ah, mais écoutez, c'est vrai qu'une fois, j'ai eu l'occasion de surer quelque chose à l'oreille d'une reine. Oh, quelque chose de secret? Je dois dire que ça a mis une de ces pagailles dans la famille.
Je veux bien le croire, mais donnez-nous des détails. Qu'est-ce que vous avez chuchoté à l'oreille de cette reine?
Alors voilà. Et d'abord, je me suis approchée tout près de l'oreille de la reine. Et je lui ai dit comme ça, l'air de rien, vous savez. Dites donc, la reine, ne souffre pas un peu fatiguée ton roi ces temps-ci?
Oh.
J'ai senti que ça commençait à prendre, alors moi, j'ai continué. Dites-donc, la reine, tu trouves pas un peu bizarre que ton roi passe toujours autant de temps à la chasse et qu'il rapporte jamais aucun gibier?
Non.
Alors j'ai senti la reine, comment dire, en perplexe. Alors moi, j'en ai remis une couche. Dites-donc, la reine, c'est quoi, c'est nous qu'il a toujours à la bouche ton mari? C'est qui cette Thalie? C'est qui cette Thalie?
C'est qui cette Thalie? La reine veut te savoir. Elle appelle l'homme de confiance du roi. S'il parle, elle le rendra riche. Mais s'il refuse de parler, elle lui coupera la tête. L'homme de confiance du roi n'y va pas par quatre chemins. Il raconte tout. Il parle même des deux enfants.
Deux enfants? J'imagine qu'ils sont mignons à croquer.
Le lendemain, la reine envoie chercher les deux enfants. Une fois au palais, elle ordonne aux cuisiniers de leur couper la tête et avec les corps, de faire un ragoût pour le repas du soir.
Et le repas du soir arrive. Le roi goûte le ragoût et se régale tant la chair est tendre.
La reine se régale de voir son mari se régaler autant.
À chaque bouchée, le roi s'extasie davantage.
À chaque bouchée, la reine s'extasie de voir son mari manger la chair de sa chair.
Mange. Ce que tu manges est à toi.
Mange. Ce que tu manges est à toi.
Mange.
Mange.
Ce que tu manges,
ce que tu manges est à toi.
Mange.
Mange. Ce que tu manges.
Mange.
Mange ce que tu manges est à toi.
Basta.
Je sais que tout ce que je mange est à moi. Tout ici m'appartient.
Le lendemain, c'est Ali que la reine envoie chercher. Quand Ali arrive, la reine la regarde de la tête aux pieds. La haine, la jalousie brûlent dans les yeux de la reine. Un torrent d'insultes se déverse de ses lèvres sur la tête de Tali.
Non è colpa mia, non è colpa mia, ce n'est pas de ma faute.
La reine ordonne qu'on allume un grand feu dans la cour du palais.
S'il vous plaît, avant de me brûler, laissez-moi enlever mes vêtements.
La reine accepte. Alors Tali, avec des gestes d'une grande lenteur pour essayer de gagner du temps, enlève sa robe, ses jupons, ses bas, ses souliers et tout ça. Elle le pose par terre, là, juste devant le feu.
Le feu assiste à toute la scène.
Brucia il fuoco, fiammeggiano le fiamme, le fiammeggia il fuoco, bruciano le fiamme. Brucia il fuoco, fiammeggiano le fiamme, fiammeggia il fuoco, bruciano le fiamme.
La voilà toute nue. Il faut que je la réchauffe un peu.
La reine ordonne qu'on attache Tali sur le bûcher pour la brûler vive.
Quoi? Moi la brûler? Mais elle m'a rien fait. Qu'elle trouve quelqu'un d'autre.
Au même instant, la reine entend des chevaux qui entrent dans la cour du palais. En tête, il y a le roi. Le roi s'immobilise en découvrant le spectacle.
Oh oh, ça va chauffer.
La reine crie au roi qu'elle sait tout maintenant. Elle tient sa vengeance. Tali va brûler dans les flammes. Quant à lui, il a déjà payé. Elle lui dit que l'autre soir, dans son ragoût, c'était ses enfants.
Quoi ? Un ragoût d'enfant ? Mais c'est pas bien ça. Je ne comprends rien dans ces histoires d'humains.
Le roi est furieux. Il saute au pied de son cheval, attrape sa femme par les poignets et plante son regard dans le sien.
Oh oh, changement de programme. Je crois que ce n'est plus Tali que je vais brûler.
Brucia il fuoco, fiammeggiano le fiamme, fiammeggia il fuoco, bruciano le fiamme. Brucia il fuoco, fiammeggiano le fiamme, fiammeggia il fuoco, bruciano le fiamme.
E finalement, c'est la reine que le feu a brûlé.
Le roi a pris Tali dans ses bras. Il l'a serré contre lui, il l'a enveloppé dans son manteau.
Il s'est retourné vers l'homme de confiance qu'il avait trompé, et hop, il l'a balancé dans le feu. Il est allé chercher le cuisinier également, pour lui infliger le même sort.
Et quand le cuisinier est arrivé, il tenait par la main un petit garçon et une petite fille.
Soleil et lune.
Le cuisinier, c'était un brave homme. Il n'avait pas voulu faire de mal aux deux enfants. Il les avait cachés chez lui. Et à la place, dans sa marmite, pour faire son ragoût, il avait mis deux petits chevreaux bien tendres.
Oh, le roi était fou de joie. il a récompensé le cuisinier. Il l'a nommé ministre pour la défense des droits des enfants.
Quant à Tali, elle est restée au palais avec le roi, leurs deux enfants, et le fil de leur vie a continué à se dérouler.
En écoute live cette semaine, vous écoutez les conteuses Fabienne Morel, Déborah Vigilio, raconter l'histoire à perdre la tête.
Toi qui n'as point d'accro dans ta robe de mariée, toi, intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes, derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile. Soir de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compter de nouvelles étoiles? N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte la bagatelle, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. N'as-tu jamais souhaité le revoir en chemin, cet ange, ce démon, qui son arc à la main décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme aux plus froides statues, les bouscule de leur socle, bascule leur vertu, arrache leur feuille de vigne. Les craintes que le ciel ne t'en tienne rigueur, il n'y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne et galope. C'est la faute commune et le péché véniel, c'est la face cachée de la lune de miel, et la rançon de Pénélope, et la rançon de Pénélope. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, n'as-tu jamais rêvé en tout bien, tout honneur? Non.
C'est pas pour dire, aujourd'hui Fabienne Morel et Déborah Digilio raconte des contes de leur enfance avec Valeria Simon, chanteuse et percussionniste sicilienne. Tête coupée, tête recollée, les épreuves initiatiques dans les contes merveilleux sont parfois terribles. Alors, les deux conteuses y mettent aussi de l'humour. Ici, leur version du fameux conte du Genévrier.
Il y avait une fois une femme qui élevait deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Et cette femme-là, c'était la belle-mère des deux enfants.
Mais non, c'était la mère des deux enfants.
Non, c'était la belle-mère.
La mère.
Bon.
On ne sait pas si c'était la mère ou la belle-mère,
mais une chose est sûre, cette femme-là, elle aimait pas le petit gars.
È vero, preferiva la bambina.
Un jour, cette femme envoie les deux enfants dans la forêt pour aller ramasser du bois. Elle promet à celui des deux qui rentrera le premier de lui offrir la paire de souliers rouges. Les souliers rouges que les deux enfants convoitaient tant.
Les souliers rouges.
À midi, le travail est fait. Les deux hôtes sont pleines de bois. Il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Mais qui arrivera le premier?
C'est moi.
Toi? Et pourquoi?
Bah, parce que moi je suis le garçon. Et alors? Bah, les garçons, ça court plus vite que les filles.
Hein. C'est ce qu'on va voir.
Bon, tu veux faire la course?
Oui.
Tout de suite.
Un, deux, trois. La jolie petite fleur. Je vais accueillir un beau bouquet.
Et c'est comme ça que le garçon arrive le premier à la maison. Il dépose sa hotte pleine de bois près de la cheminée et il réclame sa récompense. La femme lui dit que les souliers sont rangés dans le coffre à l'autre bout de la pièce. Alors tout content, le petit garçon court jusqu'au coffre, soulève le lourd couvercle et penche la tête à l'intérieur.
La femme referme le couvercle sur la tête du petit gars.
Pourquoi elle coupe pas la tête du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Oh. À la tête, elle ajoute de la nette, mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas, pourquoi elle coupe pas les pieds du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Au pied, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas. Pourquoi elle coupe pas les mains du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Aux mains, elle ajoute du thym. Au pied, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette. Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas. Pourquoi elle coupe pas les fesses du petit gars?
Parce que dans la casserole, sinon ça ne passait pas.
Aux fesses, elle ajoute de la graisse. Aux mains, elle ajoute du thym. Aux pieds, elle ajoute du laurier. À la tête, elle ajoute de la nette.
Un petit peu de dorsale, peut-être.
Mais qui donc le mangera? Cet étonnant repas.
Le père.
Oui, le père. Sauf que le père, lui, il n'aime que les plats en sauce. Alors, voyons, qu'est-ce que je vais mettre dans ma sauce, moi?
Metti gli occhi del bambino.
Et si je mettais les yeux du petit garçon? Quoi d'autre?
Aggiungi le orecchie.
Oh, je pourrais aussi mettre ses oreilles.
Un peu d'intestini.
Avec un petit bout d'intestin.
De la cervelle.
Un morceau de cervelle. Oh. Oui, mais tout ça, ça va coller dans le fond de la casserole. Il me faudrait du liquide.
Aggiungi il sangue del bambino. Pendant que la femme fait sa cuisine, la petite fille rentre à la maison. Elle demande à sa mère où est son frère.
Attends, je t'arrête, c'est pas sa mère.
Bah, c'est sa belle-mère. Non, c'est sa mère. Bon, on ne sait pas si c'était la mère ou la belle-mère, mais une chose est sûre. La femme dit à la petite fille que son frère est parti faire une course. Elle lui demande de l'aider à faire la cuisine, de souffler sur les braises parce que ce n'est pas assez chaud.
Petit feu, ma sœur, petit feu. Petit feu, ma sœur, petit feu. Petit feu, ma sœur, petit feu.
Maman, la casserole parle. Mais je ne comprends pas ce qu'elle dit.
Mais non. Oh, tu te fais encore des idées. Tu ferais mieux de te dépêcher, là. Ça va bientôt être l'heure de porter le repas à ton père.
Petit feu, ma sœur, petit feu.
La femme termine le repas et le met dans un panier. Elle donne le panier à la petite fille qui sort de la maison. Et un peu plus loin sur le chemin, la petite rencontre une belle dame.
« Bonjour, piccolina. Où est-ce que tu t'en vas comme ça avec ton panier sous le bras ?»«
Je vais porter le repas à mon père. Il travaille là-bas, dans son champ. »«
Écoute-moi bien, piccolina. Quand ton papa aura tout mangé, tu ramasseras tous les os. Tous. » Que pas un ne manque. Hai capito, piccolina?
La petite fille reprend son chemin. Elle laisse la belle dame derrière elle et bientôt elle arrive dans le champ où travaille son père. Elle lui donne le panier. Le père s'installe par terre et il commence cet étonnant repas.
Il mange.
Il jette l'os.
Il mange.
Il
jette l'os. Il mange. Il jette l'os,
la fille ramasse. Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Dis petite.
Oui, papa.
T'en veux un petit morceau?
Non, merci, j'ai pas faim.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange. Il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette l'os,
la fille le ramasse.
Il mange, il jette le dernier os.
Papa, il est tombé où celui-là?
Mais je sais pas, ma fille. Je l'ai jeté dans l'herbe avec les autres. Cherche par là.
Mais je ne le trouve pas.
Alors la petite fille reprend le chemin de sa maison avec son panier sous le bras. Mais voilà que sur leur tour, elle rencontre à nouveau la belle dame.
Oh, piccolina, et te voilà. Donne-moi ton panier, je vais vérifier que tous les os sont là. Allora, vediamo un pochino. Ci sono le ossa del cranio, le scapole, le clavicole, le falangi, le vertebre, cervicali, dorsali, lombari, l'osso sacro, l'osso del culo, importantissimo. Piccolina, il manca un os, l'os du petit doigt de pied.
Oui, je sais bien, mais celui-là, je l'ai cherché partout, madame. J'ai pas réussi à le retrouver.
Je suis désolée, piccolina, mais comme ça, je ne peux pas refaire ton frère comme il était avant.
Mon frère?
Et je ferai de lui. Tu verras.
Les ossa. La carne, la pelle, le piume, le ossa, la carne, la pelle, le piume, il becco, le ali, la coda, le zampe, le ossa, la cassa,
la palle, le pompe, il becco, le arco, la palle, la palpe, le ame, il becco, la coda, le pume, la penne, la canne, le ossa, le ossa, il becco, le arco, la palla, le zampe, le zampe, le ame, le ano, la pelle, la pelle, le piume.
Ma mère m'a tué et mon père m'a mangé. Heureusement, ma sœur m'a ramassé. Ma mère m'a tué et mon père m'a mangé. Suis devenu un beau pigeon ramier. Ma mère m'a tué et mon père m'a mangé. Suis devenu un beau pigeon ramier. Ma mère m'a tué et mon père m'a mangé. Suis devenu un beau pigeon ramier.
Le beau pigeon ramier s'envole et va se poser sur le toit du moulin. Le meunier, intrigué par le chant, sort sur le pas de sa porte. Aussitôt, l'oiseau arrête de chanter. Le meunier demande au pigeon ramier de reprendre son chant pour lui.
« Je veux bien chanter pour toi, meunier, mais en échange, donne-moi une meule de ton moulin. »
Le meunier accepte. Il va chercher la meule, il atteint l'oiseau qui la met autour de son cou. Et tout en chantant, l'oiseau va se poser sur le toit de la boutique du cordonnier. Le cordonnier, intrigué par le chant, sort sur le pas de sa porte. Même chose, l'oiseau arrête de chanter. Le cordonnier demande au pigeon ramier de reprendre son chant pour lui. L'oiseau veut bien, mais en condition.
À condition, cordonnier, qu'en échange, tu me donnes une paire de souliers rouges.
Le cordonnier accepte. Il va chercher dans son atelier les souliers rouges. Il éteint l'oiseau, qui les attrape entre ses pattes. Et toujours avec la meule autour de son cou, l'oiseau chante. Il chante et il va se poser, cette fois-ci, sur le toit de la maison. À l'intérieur, la petite fille l'entend. Elle sort dans la cour, le beau pigeon ramier s'envole au-dessus d'elle et laisse tomber à ses pieds les souliers rouges.
Elle ramasse les souliers et elle les serre fort, fort, fort contre son cœur. Et puis elle appelle son père, qui était resté à l'intérieur.
Le père sort et il appelle sa femme. Et quand la femme se retrouve au milieu de la cour, le beau pigeon ramier baisse sa tête
et laisse tomber la meule qu'il avait autour de son cou. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que sous la meule, il y a la belle-mère.
Non, il y a la mère.
Non, la belle-mère.
La mère. Bon.
On ne sait toujours pas si c'était la mère ou la belle-mère. Mais une chose est sûre, elle en est morte.
Le père en est resté tout hébété. La petite fille a enfilé les souliers rouges. Elle a invité le pigeon ramier à venir se poser sur son épaule et ensemble, ils ont dansé.
C'est pas pour dire, ça se passe bien pour vous. Bon, alors, on continue. On continue les contes initiatiques avec Déborah et Fabienne.
La chicorée est une salade. Autrefois, on ramassait la chicorée en Italie dans les champs, quand on n'avait rien d'autre à manger. Et c'est à cause de cette salade qu'une femme a perdu deux de ses filles. Ce jour-là, la mère est rentrée chez elle, en laissant dans le champ sa troisième fille.
Sa troisième fille qui s'appelle Mariuzza. Mariuzza veut absolument retrouver ses deux sœurs aînées, Teresa et Concetta. Elle ne sait pas du tout par où elles sont passées. Alors elle se met à marcher au hasard, droit devant elle. Elle marche, elle marche, elle marche, et elle finit par tomber sur une grosse chicorée.
Grosse? Mais elle était énorme, cette chicorée.
Oui, enfin, c'était une grosse chicorée, non,
mais
quoi.
Tellement grosse qu'elle arrivait à percer les nuages. Oh. Je te rappelle que c'est une chicorée italienne.
T'exagères.
Bon, c'est pour dire que Mariuzza a du mal à l'arracher. Et puis, elle s'y met avec toutes ses forces. Et hop, elle arrache.
Sous cette chicorée, Mariuzza découvre une trappe. Une trappe en fer. Elle la soulève. Il y a un escalier qui s'enfonce dans la terre. Mariuzza descend les marches. Elle arrive dans une grande pièce, toute voûtée. En face d'elle, une cheminée en pierre, sculptée. Et à côté de la cheminée, il y a une porte en bois. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et un dragon fait son apparition.
C'est moi, le dragon. Regardez quelle jolie fille m'est tombée aujourd'hui du ciel.
Je vous en prie, monsieur le dragon, ne me faites pas de
mal. Hey, calme-toi. D'abord, les présentations. Moi, on m'appelle le dragon. Et toi, chérie d'amour?
Je m'appelle Mariuzza.
Mariuzza, quel joli prénom.
Je vous en prie, monsieur le dragon, ne me faites pas de mal. J'ai pas fait exprès de tomber chez vous. J'étais là-haut en train de ramasser la chicorée avec ma mère et mes deux sœurs parce que...
Ah,
vous les auriez pas vues, vous, par hasard?
Elle parle encore trop, celle-là, hein? Mais elle est jolie. Et moi, je suis sensible à la beauté. Mariuzza, chérie d'amour, tu sais, j'ai des projets pour nous. Mais là, je vais partir à la chasse. Je vais te laisser quelque chose à manger. Si à mon retour, tu as tout mangé, je te ferai l'honneur de t'épouser. Mais si tu n'as pas mangé, je serai obligé de couper ta jolie petite tête. Ne m'y oblige pas, Mariuzza. Je t'aime.
Et reviens quelques minutes plus tard avec un plateau d'argent. Sur son plateau, il y a un pied. Un pied humain. C'est un pied de femme.
J'y vais. Et profite-en bien, hein. C'est pas tous les jours qu'on peut prendre son pied.
Mariuzza se retrouve seule face à son pied.
Elle veut pas perdre la tête, ni ne veut l'épouser.
Mariuzza se met à marcher au hasard dans les couloirs du palais souterrain du dragon. Elle pousse plusieurs portes. Elle finit par tomber sur les cuisines. Dans les cuisines, il y a un grand couteau. Avec son grand couteau, elle coupe le pied en petits morceaux. Les morceaux de pied, elle les met dans un mortier. Et pile le pied, pile le pied, pile le pied. Ça devient de la bouillie de pied. La bouillie de pied, elle la met dans un petit sac de toile. Le sac de toile, elle le cache contre son ventre, sous son tablier. Il était temps, parce que juste à ce moment-là, elle entend le dragon qui rentre de la chasse. Le dragon marche droit sur Mariuzza et il lui demande si elle a mangé le pied. Mariuzza répond que oui.
Cette fille, elle ment ou elle dit la vérité?
Elle ment ou elle dit la vérité?
Pied?
Oui.
Où es-tu?
Je suis là.
Le dragon entend la voix du pied venir du ventre de Mariuzza. Il n'en croit pas ses oreilles.
Pied?
Oui.
C'est vraiment toi? Le pied?
Ah oui?
Décline ton identité.
Ah ben, je suis le pied, pointure 38,
peau blanche, ongles bien coupés.
Elle l'a mangé. Brava Mariuzza, sono fiero di te.
Quelque temps plus tard, le dragon annonce à Mariuzza qu'il va partir en voyage.
En son absence, elle devra prendre grand soin de la colombe qui est dans sa chambre.
Il lui tend un trousseau, avec les clés qui ouvrent chacune des portes de son palais souterrain. Il l'autorise à visiter toutes les pièces.
Toutes, sauf une. Celle avec la porte en or.
Et si elle lui désobéit, il sera obligé de couper sa jolie petite tête. Le dragon part en voyage.
Mariuzza se retrouve seule dans le palais souterrain du dragon.
Les jours qui suivent, Mariuzza ouvre les pièces les unes après les autres et découvre des richesses incroyables.
Chaque matin, elle va s'occuper de la colombe dans sa cage. Elle lui donne à manger, à boire. Elle lui parle aussi de sa vie d'avant, de ses sœurs qui lui manquent tant. Et puis, une nuit que Mariuzza n'arrivait pas à dormir, elle reprend l'exploration du palais, avec une bougie allumée dans une main et le trousseau de clés dans l'autre.
Elle arrive devant un petit escalier qu'elle n'avait jamais vu. Elle descend et...
Elle se retrouve devant la porte en or.
J'ouvre.
J'ouvre pas.
Je veux pas perdre la tête, ni ne veux l'épouser.
Je veux pas.
Je veux savoir ce qui se cache derrière cette porte. Je veux pas perdre la tête.
Non, c'est trop dangereux.
Ni ne veux l'épouser.
Je
ferai attention. Il ne le saura pas.
Je veux l'épouser.
Je veux pas perdre la tête.
Oh non, mais.
Ni ne veux
l'épouser. J'ai un mauvais pressentiment.
Je veux pas perdre la tête.
Mes sœurs.
Je veux l'épouser.
Et si mes sœurs étaient derrière cette porte?
L'épouser.
Mariuzza glisse la petite clé dans la serrure de la porte en or. La porte s'ouvre en grinçant. Mariuzza récupère la clé et elle entre dans la pièce. C'est une pièce toute sombre, éclairée seulement par la flamme de sa bougie. Mariuzza fait quelques pas. Elle se cogne contre quelque chose qui est par terre. Elle baisse la flamme de sa bougie pour voir ce que c'est. Il y a une tête coupée.
Concetta.
La tête de sa sœur aînée. Elle éclaire un peu plus loin. Il y a une deuxième tête coupée.
Teresa.
La tête de sa deuxième sœur. Mariuzza soulève la flamme de sa bougie. Les corps décapités de ses sœurs sont suspendus à des crochets de boucher. Les corps décapités de ses sœurs portent des robes de mariée.
Degli abiti da sposa. Degli abiti da sposa.
Tout d'un coup, la porte claque derrière elle. Mariuzza pousse un cri et laisse tomber la clé.
Mariuzza, c'est toi?
Oh! Alors toi aussi t'as tiré sur la grosse chicorée?
Fallait pas! Mariuzza, prends garde de ne pas finir comme nous. Moi, c'est une main qu'il a voulu que je mange, le dragon.
Oui, et moi, c'est un bras. Mais tu me connais, hein? Moi, le dragon, j'ai voulu l'attraper. Hein? Alors le bras, je l'ai caché sous la terre. Mais comme tu vois, ça n'a pas marché.
Et moi, la main, je l'ai cachée dans les latrines.
Dans quoi?
Les toilettes.
Ah bon? Enfin, tu m'avais jamais dit.
Mais je ne te dis pas tout, hein?
Mariuzza, sauve-nous!
Vous la connaissez, cette histoire, bien sûr. Pour savoir comment, dans cette version, ça se termine bien, il faudra aller écouter le duo huile d'olive et beurre salé. On se retrouve la semaine prochaine, c'est promis juré, pour une enquête auprès des conteurs. En attendant, salut, portez-vous bien.
C'était...
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Beauduchot et présentée par Charles Cécile. Thank you.